Bonjour tout le monde et bienvenue dans le monde merveilleux du débat de midi où je suis ravie de vous accueillir tous les jours jusqu'à 13h. Il fait trop beau pour travailler, partons la nature et vive la liberté. Je chante mal, mais c'est ce que dit la chanson consacrée à notre sujet du jour, le travail. Assimilé parfois à une tannée dont on aimerait se débarrasser, mais qui manque aussi terriblement quand on n'en a pas, voire nous prive d'existence. La crise sanitaire a bousculé depuis un an notre rapport et notre organisation au travail entre chômage partiel ou total et télétravail. Les confinements ont aussi remis beaucoup de choses en perspective dans nos vies à tous, si bien qu'aujourd'hui, c'est la question du bien-être qui se retrouve au centre de tout. Une majorité de travailleurs veulent désormais organiser leur vie professionnelle en fonction de leur vie personnelle et pas l'inverse. Et lever le pied, comme le prônait le philosophe André Gorz, bâtir la civilisation du temps libéré. Mais réduire le temps de travail, passer par exemple à la semaine de 4 jours, comme certains le suggèrent, nous rendrait-il réellement plus heureux? Et à qui ce serait réservé d'ailleurs? Cette qualité de vie devenue cruciale passe-t-elle par le nombre d'heures ou la façon dont les choses sont organisées, ce qui n'est pas tout à fait pareil? Et puis, quelles conséquences sur l'emploi, la productivité, la santé? Bref, travaillez moins les amis, est-ce que c'est la clé du bonheur?
Camille Crenier, le débat de midi sur France Inter.
Je ne veux pas travailler, non.
Atelier 20, plus vite, 4-1.
La France travaille beaucoup moins que ses voisins.
Max, atelier 20, encore plus vite, mettez 4-7.
Vive la reprise, retrouver les collègues, la convivialité, ça n'a pas de prix.
C'est travailler plus, pas pour gagner moins.
Non, lundi matin, moi je suis à la grasse mat. Hein.
Mais attends, t'as pas vu ça?
Ah bah oui, les RTT, je les ai posés il y a 2 mois.
Les Français ont approuvé notre volonté de réduire la durée du travail.
En tant que mère de famille, j'ai besoin de mes RTT pour quand ma fille serait malade, pouvoir me déplacer. Il m'en est faux.
Alexandre, tu vas pas rester là?
C'est dans ton lit?
Elle travaille.
Je m'en fous.
Reste à terre.
Elle fait comme moi, elle se repose.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os.
Mais sommes-nous seulement prisonniers du boulot, en tout cas pour ceux qui ont la chance d'avoir un emploi? Vaste question, vous répondez oui, non?
Parfois.
Ben voilà, on va détailler qui nous parle. 3 invités avec nous aujourd'hui. Bonjour Dominique Méda.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, spécialiste du travail. Vous avez écrit entre autres « Einstein avait raison, il faut réduire le temps de travail » et votre dernier ouvrage est paru au Seuil, ça s'appelle « Manifeste travail, démocratiser, démarchandiser, dépolluer » avec Isabelle Ferreras et Julie Batalina. Bonjour à une autre Dominique, Dominique Carlac, vice-présidente du MEDEF, le Mouvement des entreprises de France. Vous, dans votre entreprise, vous avez combien de salariés dans la vôtre?
43.
43. Et bonjour aussi à vous, Christophe Nguyen.
Bonjour.
Psychologue du travail et des organisations, président du cabinet Empreinte Humaine. Vous avez mené plusieurs enquêtes en rencontrant des salariés, on va en parler. Mais d'abord, ce petit sondage sur lequel je suis tombée le 17 juin dernier sur le site internet de Ouest France. À la question « Avez-vous moins envie de travailler depuis la crise sanitaire ?», 57% des répondants disent oui. Pourquoi, Christophe Nguyen, cette envie d'allègement?
Parce que cette crise sanitaire a été vraiment confrontante pour beaucoup de salariés. Elle a mis en exergue aussi des vulnérabilités. Et le télétravail a aussi répondu à une difficulté que les Français vivaient bien avant cette crise, de conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et ce vécu qui a confronté la question de la santé mentale des personnes, qui finalement pour beaucoup ont découvert l'importance du bien-être pour eux, pour leur équilibre, a fait qu'ils ont reconsidéré aussi la place que devait prendre le travail dans leur vie.
La vie personnelle justement au centre, la vie personnelle qui commande et pas la vie professionnelle. C'est vraiment nouveau, c'est vraiment lié à l'effet pandémie-confinement, Dominique Méda, ou c'est une dynamique qui existait mais qui s'est amplifiée?
Je dirais que c'est comme une expérience naturelle, c'est-à-dire que soudainement, il y a eu la possibilité de comprendre ce qu'était la vie avec un travail différent, ce qu'était la vie à la maison, avec des enfants, etc. Donc, on est sans doute sur une dynamique, en effet, de questionnement sur le rapport au travail. Mais je dis juste quelque chose, c'est que les Français, ils sont très attachés au travail, ils aiment le travail. Là, je pense que le confinement, ça leur a même certainement rendu le travail encore plus important. Mais c'est vrai qu'ils ont découvert d'autres modalités, d'autres façons de faire.
Christophe Nguyen. Et même vis-à-vis du travail, aujourd'hui, ils savent mieux ce qu'ils peuvent attendre en matière de bonnes conditions, en matière de bien-être. Et on voit que les deux tiers disent que maintenant, ils ne supporteront plus de travailler dans des environnements de travail qui peuvent menacer leur santé psychologique. On le voit aussi dans le retour au travail, les freins. Ils disent que si le climat de travail était meilleur, s'ils avaient un meilleur management, ils seraient plus enclins à revenir, ce qui est quand même un révélateur.
Alors Dominique Carlac, travailler, enfin en tout cas la vie personnelle au centre de la vie professionnelle, ça ne plaît pas énormément au MEDEF. Votre président, le président Geoffroy Roux de Bézieux, disait l'an dernier que pour relancer la croissance, il fallait au contraire qu'on travaille plus, qu'on parte moins en vacances ou en RTT, et même qu'on repousse l'âge de la retraite. Vous, vous préférez être au travail qu'en vacances, par exemple ?
Alors, je vais d'abord corriger le point. En fait, il l'a dit au moment où l'économie était complètement à l'arrêt, et que quand l'économie allait reprendre et qu'on allait lever les contraintes sanitaires, probablement qu'il faudrait travailler plus à ce moment-là. Pas d'une manière générale, on n'y a jamais dit qu'il allait revoir les lois sociales. Donc moi j'aime être à la fois en vacances et à la fois travailler, en fait c'est une question d'équilibre, et je crois que vous l'avez soulevé. L'expérience Covid, l'expérience du télétravail forcé de masse pendant des semaines, a révélé une question intérieure que les Français se posaient peut-être plus, qui était la reconsidération du partage des temps, de la place du travail dans sa vie et de sa vie dans le travail. Et globalement, c'est la question générale de votre émission, en gros le thème du travailler moins comme clé du bonheur, ça renvoie au thème plus général du thème de la place du travail dans nos vies. Et est-ce qu'il faut opposer travail et bonheur ? Est-ce qu'il faut associer travail et bonheur ? Je crois qu'on n'a pas la réponse. On a vraiment révélé la question. Comment j'associe aujourd'hui travail et bonheur ? Parce que la question, c'est travail et bonheur, mais ça peut être aussi, si je pousse le raisonnement du travailler moins comme source de bonheur, ne pas travailler du tout, finalement, est-ce que ça sera source de bonheur ou source d'émancipation ? Et de non-émancipation. Dans certaines civilisations, dans certains genres, dans certaines conditions sociales, travailler, c'est signe d'émancipation. Donc si on pousse le raisonnement du temps, je ne sais pas si c'est la bonne question. Je pense que la bonne question, vous l'avez soulevée tous les deux, c'est la question de la qualité de vie au travail, en réalité, plus que de la durée du temps de travail.
Dominique Méda.
Il y a eu une enquête à laquelle j'avais un peu participé en 1997 et qui a été publiée dans un livre qui s'appelait « Travailler pour être heureux » de Baudelot, Golac et puis un collectif de jeunes chercheurs qui avait posé cette question aux gens. Est-ce qu'il faut travailler pour être heureux ou qu'est-ce qui, pour vous, est important pour être heureux ? Et on ne leur disait pas qu'on posait la question sur le travail. Et alors, je vous dis juste les résultats comme ça rapidement. Ce qui apparaissait, c'est que un, il fallait avoir du travail pour être heureux. Il fallait avoir un travail qui a du sens, qui donne quand même un revenu. Mais il y avait une différence entre les gens, en effet, qui n'avaient pas de travail, qui avaient absolument le travail était la condition du bonheur. Ouais. Et puis quand on en avait un, alors on arrivait à des préoccupations d'équilibre. Comment avoir un travail mieux intégré dans le reste de la vie ?
Parce que c'est ça, Christophe Nguyen. Aujourd'hui, ne pas travailler du tout, c'est plus source de malheur que de bonheur.
Et
on
de
est d'accord.
De mal-être, surtout. C'est-à-dire que...
Et de non-existence, vous le disiez.
Oui. Et d'ailleurs, on l'a vu avec cette crise, cette question d'avoir un travail. Mais quel travail pendant cette crise ? On a vu qu'au début, ceux qui étaient les plus affectés en termes de santé mentale, c'était ceux qui étaient en chômage technique. Au début, pas les télétravailleurs. Et au bout d'un an, cela a été les télétravailleurs qui ont vécu le plus mal cette situation et qui ont été les plus affectés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont travaillé de façon dégradée, isolés, avec des difficultés de coopération, une perte de sens. Donc la question, c'est effectivement quelle est la qualité aussi du travail, de ce qu'on fait.
Mais Dominique Carlac, donner la priorité, si je peux le dire comme ça, à sa vie personnelle sur la vie professionnelle, si on prend les aspirations aujourd'hui, quand on dit mettre la vie personnelle au centre, ça veut dire ça. Quand on est un patron, est-ce qu'on l'entend ça, quand on a son salarié qui dit « Ah ben non, moi j'ai besoin de m'occuper de mes enfants, ben là j'ai envie de partir en week-end, là j'ai envie de partir en vacances, là j'ai envie d'aller faire des courses. » C'est quand même, sur le papier, c'est très joli, mais vous êtes patronne. Donc,
En fait, il faut pas être noir-blanc d'abord. On va pas, encore une fois, opposer vie perso et vie pro. On va pas opposer le salarié qui aurait des intérêts non convergents avec le patron et le patron non convergent avec le salarié. En réalité, ce qu'a révélé la crise, c'est deux choses, encore une fois. Le bien-être au travail, c'est une vraie question, et le partage des temps, et l'harmonie du partage des temps, mais pas l'opposition des temps.
C'est-à-dire
et donc,
le
du
partage
coup,
des temps, ça veut dire
c'est-à-dire
quoi ?
Comment j'articule ma vie pro, qui est source d'épanouissement, et ma vie perso, sur lequel je ne veux pas que le travail vienne trop manger non plus. Et donc, du coup... en n'opposant pas ça, quand vous me posez la question en tant que patronne, oui. En tant que patronne, qu'est-ce qui se passe chez les patrons et encore plus depuis la crise Covid ? Bah, c'est le dialogue. C'est le dialogue social. C'est de se dire, à hauteur d'entreprise, plutôt qu'avec une loi qui s'appliquerait à tous, à hauteur d'entreprise, on réfléchit sur la meilleure organisation du travail, tenant compte des situations particulières. Et à partir de là, on trouve des solutions.
Dominique Méda.
Oui, on parle là, on oppose travail et vie perso. Il me semble qu'il y a un troisième morceau qui est vie familiale, qui certes est un morceau de la vie perso, mais c'est quand même un peu différent. Et alors, moi, j'ai très longtemps toujours été en faveur d'un nouveau partage du travail, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, on est dans un mauvais partage. Ce mauvais partage, c'est que les femmes, beaucoup de femmes travaillent à temps partiel, notamment pour s'occuper des enfants, et les hommes travaillent plus à temps complet.
On sait, vous avez des chiffres, on sait combien de femmes...
Bien sûr, il y a 30% des femmes qui sont à temps partiel, et la plus grande part du temps partiel est prise en charge par les femmes. Et je vous donne un autre chiffre qui est complètement extraordinaire. Qui vient de l'enquête emploi du temps. Le temps professionnel des femmes journaliers, hein, si on prend, on fait une moyenne et puis hop, on regarde. C'est 2h30, les hommes 4h. Le temps domestique, c'est le contraire. 4h pour les femmes, 2h30 pour les hommes. Donc, on a un mauvais partage. Et moi, ce que j'aimerais, c'est une norme de travail à temps complet plus courte pour les hommes et les femmes, qui permettrait en fait aux femmes d'augmenter leur temps de travail et aux hommes de diminuer le leur.
En fait, c'est ça qui est important de révéler, c'est qu'en fait, la société est encore mal faite. C'est-à-dire, il y a encore 80% des tâches ménagères et familiales qui sont faites par les femmes. Pardon. Donc, cette espèce de stéréotype intériorisé, même dans les classes supérieures, fait que c'est inégal. Ensuite, pour pouvoir avoir une répartition harmonieuse, temps de travail, temps...
Cela dit, pardon, si vous parlez des classes supérieures, si on prend la réalité aujourd'hui, c'est que les classes supérieures avec des femmes qui travaillent, c'est même pas les femmes qui font les tâches domestiques, c'est une nounou, c'est une femme de ménage, donc c'est encore autre chose.
Pas que. En réalité, si vous interrogez y compris des femmes chefs d'entreprise, dont je suis, on passe un temps considérable quand même encore à veiller à cette harmonie entre vie familiale, vie personnelle et vie pro. Triple agenda.
Christophe Nguyen. Et puis, cette crise a exacerbé, on va dire, ces inégalités. On l'a vu entre ceux qui avaient des espaces, qui permettaient de s'isoler, ceux qui avaient des enfants en bas âge, ceux qui avaient des enfants un peu plus grands. Et on a vu que, du fait de cette crise, effectivement, il y a deux fois plus de femmes qui pensent à passer un temps partiel après cette crise. À peu près 30% des femmes. Donc, on voit bien ça aussi un impact économique. Et que, il y a effectivement cette inégalité de répartition, des charges ménagères, mais également une inégalité au niveau du travail en elle-même. C'est elles qui vivent le plus les difficultés en matière de reconnaissance, en matière d'équité, en matière d'évolution professionnelle. Donc ça n'a été qu'un révélateur et je pense que c'est rien de nouveau.
Mais quand on parle de travailler moins, donc ce qui est, encore une fois, je me base sur ce sondage de West France, mais qui n'est pas non plus un sondage auprès de 10 000 personnes, mais en tout cas, c'est aujourd'hui une aspiration, on est d'accord dans la société. Ça veut dire quoi, en fait, travailler moins pour avoir une meilleure qualité de vie? Ça se concrétise comment, ça, Dominique Carlac?
J'ai pas vraiment la réponse. Moi, ce que j'observe, je suis chef d'entreprise depuis 30 ans. Dans les questions que vous posent des candidats quand vous recrutez, il y a 20 ans, 25 ans, on vous posait assez rapidement la question des horaires.
Et des vacances?
Vacances, de comment ça marche. Aujourd'hui, les jeunes que vous recrutez, ils vous posent pas cette question. Ils vous posent la question de c'est quoi l'engagement que je pourrais prendre? C'est quoi l'engagement que prend l'entreprise? À quoi ça sert de travailler? Donc, on est remonté non pas sur le temps de travail, mais sur l'utilité et le sens du travail. Et ça, c'est quand même un indicateur fort, c'est les entretiens d'embauche. La plupart vous demandent c'est quoi le sens que j'aurai dans mon travail. Et ils ne posent pas la question de
la quantité. Les vacances, c'est pas du tout important, le temps libre.
Si, c'est certainement important, mais ça n'est plus la question principale quand vous recrutez. Et les jeunes peuvent choisir une entreprise qui va leur répondre sur ce critère de la qualité de l'engagement de l'entreprise et de ce qu'ils pourront continuer à faire en termes d'engagement personnel, plutôt que le nombre d'heures qu'ils passeront à l'entreprise.
Oui, pour compléter, effectivement, je pense que le besoin aussi d'avoir un équilibre des vies s'exprime aussi par la demande de flexibilité, la demande de confiance et du respect de ces temps de vie. On voit que ce qu'on a pendant cette période, et je pense qu'elle a été aussi marquante pour beaucoup, qu'il y a eu des effets de ce qu'on appelle de blurring, c'est-à-dire de confusion des temps, de pas pouvoir décrocher, notamment en télétravail, quand je ferme l'ordi, j'y pense quand même, soir, week-end, et qu'il y a eu des débordements et un envahissement qui a forcément retenu, on va dire, l'attention des personnes et qui maintenant motive aussi à bien séparer et à bien scinder, compartimenter ces temps. Et on le voit que c'est quand c'est conflictuel aussi que c'est révélateur pour les personnes. Et je crois que ce besoin, il est aussi important de pouvoir faire évoluer le droit du travail, évoluer la question du droit à la déconnexion pour réellement la faire appliquer, pas seulement comme étant une possibilité, mais comme étant une exigence des entreprises pour respecter ces temps de vie des personnes.
Mais de qui vient ce besoin, Dominique Méda? Parce que travailler moins, est-ce que c'est pas réservé et est-ce que c'est pas une demande finalement de ceux qui en ont les moyens financièrement?
C'est tout à fait ce que j'allais dire. Il y a une diversité des temps de travail en France. Hein. Il y a en même temps, faut pas oublier, bon, il y a des gens qui sont à zéro, c'est des gens qui sont chômeurs. Il y a un hyper morcellement du temps de travail, c'est-à-dire il y a des gens qui ont des toutes petites quantités de travail. Il y a des gens qui sont, ça s'appelle le sous-emploi à temps partiel, qui voudraient travailler plus. Et puis il y a des gens d'un autre côté qui font 50, 60, 90 heures. Vous avez vu peut-être récemment les internes en médecine.
Oui, alors il y a eu cette étude de l'OMS qui dit que travailler plus de 55 voilà, heures semaine, ouais. C'est mauvais pour la santé.
Normalement, il y a une norme européenne, hein, c'est les 48 heures qu'on ne doit pas dépasser. Il y a plein de gens qui dépassent ça. Donc, on ne peut pas dire travailler moins pour être heureux. Il y a des gens qui voudraient travailler plus.
Bien sûr.
Voilà. Et puis, en effet, pour des gens qui font beaucoup de présence, pour ces fameux internes en médecine là, qui n'en peuvent plus, qui n'ont pas leur bonne garde, etc., ben là, il faut absolument réduire le temps de travail. Et puis, donc, je reviens sur cette diversité et la répartition entre zéro, temps partiel, très très long, temps complet très long. Essayez de rassembler tous ces gens autour d'une norme de travail à temps complet plus courte, ça c'est intéressant. Parce que si vous voulez, vous avez des pays, alors j'ai parlé de la France, mais par exemple en Allemagne. En Allemagne où le partage des tâches est encore moins bien organisé, vous avez plein de femmes qui travaillent sur des petits temps partiels. Et puis les hommes sont eux à temps complet. Nous c'est un peu mieux comme modèle, mais je crois qu'on peut mieux faire encore.
Allez, j'attends vos questions, vos réactions, chères auditrices, chers auditeurs. Vos témoignages aussi, ça se passe sur l'application France Inter, par mail ou sur Twitter avec le hashtag débat. De midi. Travailler moins, est-ce la clé du bonheur? On commence à répondre à cette question. C'est le thème de ce débat de midi réalisé par Valérie Ayestaraï, préparé par Colin Druel et Sophie Perwaguet. Et c'est Clément Vuillet qui est à la technique aujourd'hui.
Quand tu m'exaspères, quand tu pars et tu me déserts, près de toi je suis jamais fière, on finit toujours en guerre. Si je demande à ma mère son avis sur ce calvaire, de tes mots qui me laissent amère, tes promesses tout éphémères. Ta maison rouge t'attend à mes naissances après. Les traits qui coulent t'attend à mes, c'est ce que tu me dis. Ta maison rouge. C'est le monde à l'envers. T'es mon enfer avec tes commentaires. Avoue que c'est que pour nous. Les autres ont perdu l'espoir. Avoue que tu lâcherais tout pour moi. Ta maison rouge. T'attends à mes naissances après. Le toit qui coule. T'attends à mes, c'est ce que tu me dis.
C'était Calvaire sur France Inter.
Le débat du midi. Sur France Inter.
Pour bien commencer la semaine, il suffit de prolonger le week-end. Chaque mois, 6 millions de Français patouzent dans le bonheur des 35 heures. Les marmots barbotent, les parents parlotent. La RTT, c'est d'abord une amie de la famille. Selon une étude menée par le ministère de l'Emploi, 59% des Français estiment que les RTT embellissent leur vie quotidienne, tandis que 28% ne voient guère la différence.
C'est un bien et un mal. Un bien parce qu'effectivement on a des repos en plus, mais un mal parce que on nous avait promis de l'effectif, en fait on n'a pas d'effectif en plus.
Dans leur vie professionnelle, seuls 26% des salariés sont satisfaits des 35 heures. Près de la moitié d'entre eux sont contraints à une grande polyvalence et soumis à plus de stress.
Alors ça, c'était un extrait du journal télévisé de France 2 en 2001, au moment dans l'entrée, dans la danse, on va dire, des 35 heures, donc qui était déjà une réduction du temps de travail. Dominique Carla, au MEDEF, les 35 heures, vous en pensez quoi?
On l'a absorbé, ça fait 20 ans, et ça fait 20 ans que ça marche, je dirais, très bien, qu'on a organisé ça dans les entreprises. Les systèmes des RTT permettent d'organiser le travail différemment d'avant les 35 heures.
Je vous pose la question parce qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, Jean Tirole en particulier, prix Nobel d'économie, avait parlé d'une ineptie, entre autres, même la gauche n'était pas forcément...
C'est-à-dire probablement qu'on a gagné de la productivité parce qu'effectivement, la création d'emplois qui devait être associée, on sait pas, on n'a jamais su vraiment le démontrer. En revanche, que l'on sait, c'est que la productivité en France est plus élevée par rapport à la moyenne européenne. Donc probablement qu'on a travaillé plus efficacement.
Aujourd'hui, on travaille combien d'heures par semaine en France ? Est-ce qu'on peut faire un petit point, Dominique Méda, et comparer par rapport à d'autres pays de l'OCDE en particulier ?
Je sors toutes mes statistiques. Allez. Moi, j'ai longtemps, j'ai passé une partie de ma carrière à la DARES, et j'étais à la DARES au moment de la réduction du temps de travail.
La DARES, qui est
la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du Travail. Alors, donc les stats, en gros, qu'est-ce qu'elles disent ? Elles ne confirment pas l'idée que les Français seraient des paresseux, des fainéants et travailleraient peu. L'OCDE nous dit que les Français travaillent plus que les Allemands, les Danois, les Britanniques, les Norvégiens, les Autrichiens et les Néerlandais.
Annuellement ou hebdomadaire ?
Annuellement.
Ouais. Combien d'heures ça fait ?
Alors, combien d'heures ça fait ? Vous voulez, 1402 heures par travailleur en France.
37 heures par semaine.
Voilà. 37 heures par semaine.
Et en effet, 37 heures par semaine. Alors, avec tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les Français qui travaillent à temps complet travaillent un peu moins longtemps que les autres Européens qui travaillent à temps complet, mais nos temps partiels sont plus longs. Donc l'un dans l'autre, les Français travaillent un peu plus que les Allemands, les Britanniques, etc. Donc on n'est pas des paresseux.
Et donc vous, Dominique Méda, vous faites partie des voix qui militeraient, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, en tout cas qui plaideraient pour réduire encore la semaine de travail à 32 heures, c'est-à-dire 4 jours, si on doit le résumer comme ça. Je précise qu'il y a plusieurs organisations, dont la CGT, qui sont pour, et encore plus depuis l'année dernière.
Oui, donc moi je suis pour la réduction du temps de travail. Pourquoi ? Parce que il me semble que, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, il y a à tout moment un certain nombre d'heures travaillées en tout dans un pays. Par exemple, en ce moment, il y a 43 milliards, enfin en 2019, c'est 43 milliards d'heures travaillées. Ces heures travaillées, on peut les répartir différemment sur l'ensemble de la population en âge de travailler. Et évidemment, si elles étaient très bien réparties, on pourrait ne pas avoir de chômage, par exemple. Donc,
ça avait été dit au moment des 35 heures et ça n'a pas été prouvé que les 35 heures...
Alors là, je vous redis, donc, moi j'étais à la DARES, on a montré qu'il y a 350 000 emplois qui avaient été créé et surtout entre 97 et 2001, on a créé 2 millions d'emplois. Moi, je dis toujours que, à mon avis, le baby-boom qu'on a eu en 2001 s'explique par cette réduction du temps de travail.
On a
créé des emplois.
Mais ces créations d'emplois, elles sont contestées, ces chiffres.
Personne ne conteste ces 350 000 emplois créés. Et le problème, si vous voulez, c'est qu'au début, première loi Aubry, on a obligé les entreprises à réduire vraiment leur temps de travail. Et c'est seulement si elles créent des emplois qu'elles avaient des aides, alors que la deuxième loi Aubry, ça ne s'est plus passé comme ça. Et donc, il y a eu une intensification du travail.
On a un message sur le mail de la page du débat de midi. Bonjour, la vie personnelle et la vie professionnelle doivent être absolument distinguées, sinon il n'y a pas de bien-être. Pour les équilibres de ces deux choses, créer le week-end de 3 jours, les semaines de 30 heures et la mise en place du temps social pour échange entre les gens. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe Nguyen ?
Je pense que...
Anonyme, c'est pas signé. Ouais.
Je pense que c'est difficile de décréter comme ça, on va dire que les sphères de vie sont étanches, surtout avec les outils numériques qu'on a. Je crois que c'est vraiment un acte de management, on va dire, et d'organisation, c'est là où il a son pouvoir, et aussi de la responsabilité des personnes collectives à pouvoir s'organiser en fonction des contraintes des uns et des autres. Et je crois que c'est pas par la loi ou par les bonnes idées qui s'imposent à tout le monde qu'on contraint à pouvoir mieux collaborer et à ne pas, j'ai envie de dire, éviter des interférences entre la vie pro et la vie perso, surtout que beaucoup demandent une flexibilité. Combien de personnes veulent, par exemple, dans la journée, aller voir le médecin, aller chercher les enfants, et puis ensuite se remettre au travail un peu après.
Dominique Carlac, plus de flexibilité, ça pourrait être envisageable?
En fait, déjà, le premier point, c'est de se dire, créer une nouvelle norme unique aujourd'hui sur 32 heures pour tout le monde, pour toute organisation, tout secteur, ça me paraît, alors ça paraît séduisant de travailler moins, mais en réalité, est-ce que c'est applicable économiquement? J'ai un petit doute.
Pourquoi?
J'ai un petit doute parce que d'abord, toutes les entreprises, tous les secteurs, toutes les organisations, quelles que soient, hein, publiques ou privées d'ailleurs, on parlait de l'hôpital tout à l'heure et des internes, ont des rythmes, des organisations, des besoins de satisfaire les usagers qui sont différents. Donc déjà, appliquer une norme unique entre un médecin d'une part ou entre quelqu'un dans un magasin ou quelqu'un dans un bureau, ça me paraît une utopie, au sens ça ne semble pas applicable. Et la deuxième chose, c'est que vous venez de parler de flexibilité, elle est déjà possible en réalité. Vous pouvez aujourd'hui signer des contrats de travail dans une plage horaire qui peut varier en fonction justement de votre besoin ou de votre envie de partager les temps. Alors, c'est peut-être... Il y a un sujet à traiter, c'est celui des femmes où effectivement, là, elles n'ont pas toujours le choix. Ça, c'est parfois imposé, soit par leurs conditions, je dirais, de vie, soit parfois, effectivement, pour certains emplois qui sont toujours réservés aux femmes et qui, elles, atrophient leur temps de travail. Mais néanmoins, on peut aujourd'hui choisir de dire, ben, moi, je veux faire ma semaine sur 4 jours, mais dans mon temps de travail complet.
Ça, c'est accepté aujourd'hui dans les entreprises, Christophe Nguyen.
En tout cas, il y a
des témoignages que vous recueillez.
Ouais, non, disons que ça se heurte à pas mal de conservatisme, bien entendu. Encore,
du management.
Du management, parce qu'on a encore cette idée qu'il faut être, et le télétravail l'a révélé, être au bureau pour montrer qu'on est loyal, qu'on est engagé,
qu'on est productif
et qu'on travaille beaucoup d'heures. Ce présentéisme bien à la française, donc qui est en train d'évoluer de toute façon par la force des choses. Mais je crois que la question, elle est aussi effectivement dans la question des temps sociaux. Alors, il y a les temps sociaux personnels, amicaux, familiaux, etc., les loisirs, et ça, c'est bien pour la santé et c'est bien pour le travail aussi, parce que vous avez des gens qui sont épanouis et qui investissent pas trop le travail non plus, parce que c'est là où il peut y avoir un risque. Et il y a les temps sociaux, je pense, aussi dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je trouve que d'avoir des journées dans la semaine, on parle du dimanche, par exemple, est-ce qu'il faut complètement ouvrir le travail le dimanche? Le dimanche est un temps social qui peut être très récupérateur pour beaucoup de personnes, c'est sanctuarisé. C'est comme pour les congés, de pouvoir poser des règles qui sont très importantes.
Oui, mais alors, pardon, à l'inverse, il y a des personnes qui travaillent beaucoup et qui se disent, ah bah, si les magasins étaient ouverts le dimanche, je pourrais aller faire mes courses, alors que du coup, j'ai pas le temps.
Mais pour eux, ils peuvent trouver. Il y a toujours des magasins, ça dépend où ils habitent.
Ça dépend où ils habitent.
Mais après, il y a Amazon, mais bon, je veux pas leur faire la pub.
vous allez en faire des mécontents dans nos éditeurs.
C'est pour ça que j'ai regardé Dominique.
Dominique Méda.
Moi, je pense que... je vois qu'on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Ouais. Moi, je pense qu'il faut une loi pour encadrer tout ça, une norme, quoi, pour que dans laquelle tout le monde se retrouve. Par exemple, au niveau européen, c'est 48 heures. On peut pas travailler plus de 48 heures. Donc, il faut une norme pour cadrer un peu tout ça.
Mais ça existe pas déjà cette norme?
Ah bah si, on a une norme. Bien sûr, on a une durée légale.
Une nouvelle norme.
Non mais on a une durée légale de 35 heures aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est une durée légale, hein? Ça veut dire que au-dessus de 35 heures, vous devez payer des heures supplémentaires, sauf quand vous êtes cadre ou forfait jour, etc. Mais donc moi, je pense qu'ensuite, les modalités, il faut les laisser définir d'une part par la négociation collective, mais aussi peut-être par les salariés de l'entreprise. Dans le dernier bouquin que vous avez bien voulu citer, ce manifeste travail qu'on a écrit, on demande qu'il y ait plus de pouvoir laissé aux salariés. Et peut-être que ces modalités-là, on pourrait les laisser décider par les salariés.
Mais ça, c'est pas une utopie, ça, Dominique Carla, que vous laisseriez décider les salariés au MEDEF?
Je suis pas certaine de l'idée. Ce dont je suis encore moins certaine, c'est créer une nouvelle norme. Je ne suis pas sûre. D'abord, ça plaira pas effectivement au patron, mais ça plaira pas non plus aux salariés. Ce que veulent les salariés aujourd'hui, c'est qu'on tienne compte de leur situation à eux, personnelle. Donc c'est à hauteur d'entreprise, dans la négociation avec les représentants du personnel dans chaque entreprise, qui veulent trouver des solutions. Une norme ne les accommode pas du tout.
Ce que vous dites depuis tout à l'heure, Dominique Carlac, c'est très joli sur le papier et dans le discours,
mais, c'est la réalité, mais aujourd'hui, dans les entreprises,
il y a une réalité aussi qui est celle de devoir produire, de devoir faire des résultats, de devoir faire des chiffres et parfois, pour se faire, des épuisements.
Et pour ce faire, le capital humain doit être préservé. On a une loi qui dit que le chef d'entreprise doit garantir la santé de ses salariés et en particulier la santé psychologique. Donc le chef d'entreprise, il n'est pas suicidaire. Il sait très bien que si les gens se mettent en burn-out ou en présentéisme excessif, ça ne va rien produire.
Combien de burn-out aujourd'hui en France, Christophe Nguyen?
On a doublé du nombre de burn-out en France après cette crise. On est à 2 millions de salariés qui sont en burn-out sévère. On sait que c'est un processus, c'est quelque chose qui s'installe dans le temps et c'est très inquiétant et on le voit quand j'échange, il n'y a pas un DRH qu'on rencontre qui ne dit pas qu'il n'a pas traité des cas de burn-out.
Et ça s'explique très bien, c'est-à-dire que effectivement, quand il y a eu ce télétravail massif, non choisi, ni par les chefs d'entreprise, ni par les salariés, il y a eu une perméabilité entre vie pro, vie perso qui s'est installée, on ne fait plus la part des choses, et du coup, en termes de management, ça doit changer. C'est-à-dire,
Mais il y a eu une intensification aussi de la charge de travail, hein, qui s'est accélérée aussi pendant cette période.
Parce qu'on ne faisait plus la part des choses. Oui. Et nous, on était les premiers à dire le télétravail massif, 5 jours sur 5, ça n'est pas possible.
Alors,
et c'est pas une question de contrôle. C'est une question que on ne fait plus la part des choses.
On va écouter justement le témoignage d'une famille en plein télétravail. C'était pas facile.
C'est vrai que l'année dernière, c'était un peu une découverte. Et puis, à la fin, on était très fatigués et un peu épuisés de ce mode de fonctionnement.
Ce qui est sûr, c'est que je vais pas essayer de tout faire parce que, en fait, ça a été terrible.
Cette fois-ci, Florence ne télétravaillera que le matin et toute la famille se lèvera à la même heure.
Bah, papa et maman, ils étaient pas forcément là pour m'expliquer, donc des fois je devais me débrouiller et je n'aime pas trop.
Christophe Nguyen, le télétravail, faux amis ou bonne idée?
Alors le télétravail, moi je suis plutôt je prône beaucoup le télétravail, on le met en place chez nous depuis longtemps et c'est vrai que ça répond aux besoins, on en a parlé, d'équilibre des vies des personnes et les salariés en redemandent, ils sont pas...
Ceux qui peuvent en tout cas, parce que tous les salariés évidemment peuvent pas, vous avez des proportions?
Oui, aujourd'hui c'est 8 salariés sur 10 qui veut télétravailleur, qui a pu télétravailler, qui veut conserver un télétravail entre 1 et 3 jours.
Et il y a combien de salariés qui ont pu télétravailler depuis un an par exemple?
Un peu plus de 50%.
De 50% de tous les travailleurs, d'accord.
Et aujourd'hui, on voit qu'ils en redemandent parce que ils ont bien vu, malgré des difficultés, malgré les burn-out, malgré l'épuisement, malgré les difficultés de conciliation avec les enfants, etc. Et c'est un vecteur très important de bien-être. Après, il y a les conditions du télétravail. C'est pas le télétravail en lui-même qui est mauvais, c'est les mauvaises conditions de travail. C'est comme pour le travail. C'est pas le travail qui est mauvais, il est sain. On voit que ceux qui ont un travail sont en meilleure santé que les autres. En revanche, c'est des mauvaises conditions de télétravail qu'on a pu le voir. Donc, il y a des choses à retenir de cette période et surtout à prévenir pour la suite.
Dominique Carlac.
Il y a énormément de choses à retenir parce que avant l'épisode Covid, il y avait 3% des actifs qui bénéficiaient d'un accord de télétravail. Donc, il y en avait 97% qui fantasmaient les 3% qui avaient cette d'accord. Et puis il y avait beaucoup de patrons qui fantasmaient dans l'autre sens en disant le télétravail c'est pas bon pour le travail et donc qui étaient plutôt réfractaires. Aujourd'hui chacun a progressé, c'est-à-dire que les 100% qui ont été mis en télétravail massif, mais ils en reviennent un petit peu et les patrons ils en reviennent un petit peu aussi en se disant finalement un ou deux jours par semaine quand on se promène pas dans les transports c'est pas mal. Pour justement avoir des salariés qui sont plus, je dirais, épanouis, qui ont moins les transports.
Et plus productifs ou pas?
Alors oui, je crois que ça a révélé que les salariés étaient plus productifs, mais la productivité peut cacher un mal-être psychologique. Donc il ne faut pas regarder que ça. Et donc ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est l'adaptation du management en réalité. Comment passer d'un management de contrôle un management de confiance.
Et ça, c'est
réciproque.
Toute la question,
et de confiance réciproque.
Dominique Méda, aujourd'hui, le management, c'est particulier à la France, ce conservatisme dont parlait tout à l'heure Christophe Nguyen?
Alors, on sait qu'en France, on a plus de ce qu'on appelle des organisations en lean management, très serré, très contrôlant, laissant peu d'autonomie aux salariés.
Très hiérarchisé aussi.
Ouais, versus les pays du Nord, où on a ce qu'on appelle les organisations apprenantes, qui laissent plus d'autonomie aux salariés. Mais pour revenir sur le télétravail, c'est la question, en effet, Dominique Carlac l'a dit, du nombre de jours par semaine, ça c'est très important. On peut pas aller jusqu'à 4 ou 5 jours par semaine, ça l'entreprise exploserait quoi. Et
pourquoi?
Puis moi j'ai deux comment?
Pourquoi elle exploserait avec du 100%
parce qu'elle se disloque et il y a plus de sens commun. Voilà. À faire quelque chose ensemble.
Et moi, j'ai deux craintes. J'ai la crainte d'une polarisation encore plus profonde entre les cadres qui peuvent télétravailler et puis les autres, les ouvriers qui ne peuvent pas. Et ça, on le voit très bien dans les différentes enquêtes, une polarisation qui s'est accrue. Et puis, j'ai un scénario noir qui est, en effet, si on faisait comme, par exemple, ce que propose PSA, un jour de travail par semaine seulement où les équipes se retrouvent, que peu à peu le lien se relâche entre les équipes et l'entreprise. Que l'entreprise explose, que ça soit la fin du salariat, et puis qu'on délocalise les prestations, qu'on ait en quelque sorte un développement des plateformes de micro-tâches. Et ça me fait très très peur.
Parce que le lien, c'est ça, entre collègues et managers, entre salariés et managers, Christophe Nguyen, aujourd'hui, c'est ce qui tient aussi l'entreprise. Il n'y a pas que les résultats qui sont produits.
Bien sûr. Je vous donne un exemple. C'est cette salariée qui faisait exactement le même travail en télétravail que quand elle était dans les bureaux. Et ce qu'elle disait, c'est que sa journée journée se résumait à recevoir des demandes, des mails, des tâches en tant que telle. Et elle avait plus du tout le contrôle. Là où avant, elle avait des discussions avec son équipe qui venait en disant « j'ai une urgence, est-ce que tu peux le faire pour telle heure ?» Il y avait une négociation et un échange. Donc ça, c'est très important aussi pour le vécu dans le travail, alors qu'elle faisait exactement la même chose. La question du sens, c'est-à-dire j'envoie du reporting, à qui, quoi, pourquoi. Puis la question de l'intégration, c'est-à-dire qu'on a vu que les jeunes étaient particulièrement en difficulté avec le télétravail parce qu'ils ne voyaient pas le travail se faire, ils ne comprenaient pas les codes de l'entreprise. Donc j'invite moi les boîtes qui ont complètement abandonné leur bureau à se poser vraiment des questions, parce que ça peut marcher si les gens se connaissent pendant un temps, mais le jour où vous allez renouveler les équipes, vous allez avoir une déperdition de vos savoir-faire, une déperdition aussi de ce qui fait votre différence et même votre avantage sur les marchés concurrentiels. Donc je crois qu'il faut réfléchir le télétravail de façon plus large que uniquement le nombre de jours. Parce qu'on fait la même erreur qu'on réfléchit le travail ou l'emploi uniquement sur le nombre d'heures.
Donc ne pas figer, ne pas dire c'est deux jours de télétravail par semaine.
Et réfléchir en termes d'efficacité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire dans les bureaux qu'on ne va pas faire chez soi. Qu'est-ce qui est plus adéquat à faire? Si j'ai besoin d'isolement, c'est le côté positif de l'isolement du télétravail. Je le fais chez moi, j'embête personne. Et si j'ai besoin de coopérer, d'apprendre mon métier, je vais dans les bureaux par
Mais
exemple.
Mais encore une fois, pardon, tous les travailleurs, je dis travailleurs pas salariés, parce que tous les travailleurs ne sont pas des salariés, ne peuvent pas faire ce que vous dites, non, et toutes les entreprises non plus, Dominique Méda.
Alors, absolument, c'est ce que je pense à un bouquin que j'ai préfacé, qui a une grosse enquête de l'INED qui s'appelle Coconel, qui montre en effet cette énorme polarisation de la France entre d'un côté les ouvriers et parfois les employés qui ne pouvaient pas télétravailler. Il y a des métiers où vous ne pouvez pas, dans le bâtiment, vous ne pouvez pas. Et puis, tous ceux qui sont... Ça veut dire que, est-ce qu'on va se retrouver avec juste les travailleurs de la deuxième ligne et puis tout le monde sera parti ailleurs? C'est pas possible. Hein. Oui. Et puis, juste sur le télétravail, pour rebondir, certes, on peut s'isoler en télétravail, mais souvenez-vous, un autre résultat de cette enquête Coconel, c'est qu'il faut avoir une pièce dédiée pour le télétravail. Et 49% des cadres hommes avaient une pièce dédiée pour le télétravail, contre 27% des femmes.
Christophe Ngé,
Ce que je voulais dire, c'est effectivement la question du télétravail a exacerbé beaucoup de choses. Mais je crois que autour de la question de la compétitivité et de la productivité qu'on a pu identifier, l'Institut, je crois que c'est l'Institut Montaigne qui avait montré qu'il y avait un bond de productivité de 22%, a eu un coût humain. Et on le voit au niveau des arrêts maladie, on le voit au niveau des besoins de reconversion. La question aussi de l'équilibre des vies, on la voit dans ces demandes de gens qui recherchent du sens nouveau.
Dominique Carlaco, MEDEF, qu'est-ce qu'on pense de tout ce que vient de dire Christophe Nguyen et Dominique Méda?
D'abord, on a initié un accord national interprofessionnel fin 2020 pour discuter avec les syndicats en disant, mais finalement, quelle est la meilleure manière de mettre en place un accord de télétravail réussi. Et le mot le plus important, c'était réussi. Parce que là, on est en train de parler de scénarios complètement crash test. Parce que la situation sanitaire a fait que le gouvernement a dit tout le monde à la maison. Mais les entreprises n'avaient pas dit tout le monde à la maison.
Bien sûr.
Mais parce que c'était nécessaire sanitairement, on l'a fait.
Mais il y a un héritage.
Aujourd'hui, on est pragmatique. Et que ce soit les représentants des salariés, organisations syndicales ou patronales, on est pragmatique en disant un peu de télétravail semble apporter quelque chose et aux salariés et aux entreprises. En revanche, il ne s'agit pas de retourner complètement à la maison ou complètement au travail. En revanche, également, ça revisite quand même le lien qu'on a au travail et le sens qu'on a au travail, que ce soit en tant que chef d'entreprise et en tant que salarié. La raison d'être, finalement, du travail et de l'entreprise, là, c'est la question
très forte,
majeure aujourd'hui.
Beaucoup plus forte d'authenticité, je crois aussi, de la parole de l'entreprise. On l'a vu qu'il y a eu un effritement très fort de la confiance des salariés vis-à-vis de leur direction générale, de la façon aussi dont elles ont pu...
Ah, Dominique Carlac n'est pas d'accord, vous pouvez le dire.
Je finis, c'est juste sur la partie, sur les enquêtes qu'on a pu faire, donc sur des échantillons représentatifs, il y a quand même 60% des gens qui disent avoir perdu confiance du fait de la façon dont la crise sanitaire a été gérée. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de solidarité au départ. Il y a eu beaucoup d'engagement des comités de direction à mettre en œuvre des actions pour protéger leurs salariés. Ça, c'est vrai, tout le monde le dit, quelles que soient les parties prenantes. Mais au fur et à mesure que cette crise s'installait, c'est comme si finalement la productivité, le rattrapage des efforts n'avait pas pris en compte l'état psychologique des salariés, leur état de fatigue.
Et on va laisser Dominique Carlac vous répondre dans un instant. Wide open.
life, it'll feel just like before. Hearts aren't broken, just like before. Hearts aren't broken. Oh,
spring, winter, summer, I'm still falling for you. Day after day, I wonder, what is it that you do to make me this weak?
C'est Cochous Clé avec Run Ride Back et c'est Valentine Chedebois qui signe la programmation musicale.
France Inter. Le débat du midi. Camille Cronier.
Et c'était un sujet du bac en 2016, figurez-vous. Travailler moins, est-ce vivre mieux? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec mes invités. Dominique Carlac, vice-présidente du MEDEF. Dominique Méda, professeur de sociologie, spécialiste du travail. Et Christophe Nguyen, psychologue du travail. Dominique Carlac, vous vouliez répondre à ce que disait à l'instant Christophe Nguyen?
Oui, qui disait finalement les salariés ont perdu confiance pendant la période Covid. Une partie des salariés vis-à-vis de leur entreprise. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, le premier indicateur de « je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça », c'est pourquoi alors les salariés ont voulu revenir dans l'entreprise alors qu'ils étaient en télétravail forcé et qu'ils ont mis un peu la pression, et notamment les organisations syndicales,
pour que ça s'arrête. Moi, je parlais des comités de direction, je ne parlais pas des locaux ou des collègues.
D'accord. Hein, ouais. Alors, il y a beaucoup d'attentes réciproques. Je vous ai dit, on passe d'une culture du contrôle à une culture de la responsabilité réciproque.
Et donc, mais vous êtes sûre que vous êtes vice-présidente du MEDEF?
Je vous pose la question. J'en suis certaine. J'ai été co-négociatrice de l'accord national sur le télétravail avec les autres syndicats et avec le MEDEF.
Mais pardon, vous n'allez quand même pas nous dire que le MEDEF pourrait être éventuellement d'accord pour, par exemple, passer aux 32 heures
hebdomadaires. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que ce qu'attendent aujourd'hui les salariés et les entreprises, c'est une meilleure adéquation entre eux et une meilleure qualité de vie au travail, ce qui ne veut pas dire forcément de travailler moins. Alors, parce qu'à un moment donné, il faut quand même produire, tout simplement, parce qu'il y a des clients et des consommateurs qui veulent consommer.
Tout à fait, je suis d'accord avec ça, mais il y a aussi cette question que, pour les gens qui vivent très mal ces interférences entre la vie pro et les perso, et on a parlé notamment des parents, la question de la parentalité va être centrale. Toutes ces personnes qui culpabilisent de ne pas pouvoir accompagner leurs enfants qui ont vécu une scolarité catastrophique, qui voient des troubles aussi se développer, et ça, c'est un héritage qu'on va avoir encore quelques années, qui voient, on va dire, cette culpabilité de ne pas pouvoir suivre et accompagner, bien assumer les responsabilités familiales.
Le congé paternité augmenté à un mois, Dominique Méda, pour ça, c'est un progrès ou pas ?
Oui, c'est un progrès, mais c'est un petit progrès quand même. On voit bien que si on voulait, il me semble qu'on en est tous d'accord depuis le début de cette émission, si on voulait vraiment mieux répartir à la fois les tâches domestiques et familiales d'une part et le temps professionnel d'autre part entre les hommes et les femmes, il faudrait aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Il faudrait tout revoir. À la fois les services publics, comment on fait pour accueillir tous les jeunes enfants. À la fois les horaires des entreprises, comment on fait pour pas sortir trop.
Parce qu'en fait, le travail, le monde du travail structure nos journées
à nous,
mais structure aussi notre société. C'est-à-dire que les limites, elles sont où alors, Dominique Carlac? Si on revoit tout, si tout est flexible, comment on fait?
Ni les chefs d'entreprise, ni le MEDEF n'ont la main sur tout. On n'est pas le grand Léviathan. En revanche, les deux sont structurants, c'est-à-dire que quand vous avez effectivement des services de crèche ou des horaires à respecter, vous devez quitter le travail. À l'inverse, nous, pendant la période actuelle, quand il s'agit par exemple de vacciner en masse, Geoffroy Roux de Bézieux a été le premier à inciter les chefs d'entreprise à ce que les salariés puissent se vacciner sur le temps de travail.
Mais est-ce que derrière, ils ne doivent pas rattraper ce temps de travail? Parce que c'est bien de dire, oui, alors c'est bon, vous pouvez partir plus tôt, mais au final, si on a un dossier à finir...
En fait, ça n'est pas la question. En fait, dans les entreprises, c'est plus comme ça que ça se passe. La question, c'est comment on est efficace.
Ça dépend.
Alors, ça dépend lesquels, peut-être. Mais en tout cas, la vraie question, c'est comment on est efficace ensemble. Et donc, il ne s'agit plus de se dire, travail, tribalum, torture. Non, c'est travail, on va produire quelque chose ensemble.
Alors, on a un message sur Twitter d'un anonyme encore, mais signez vos messages, bon sang, qui nous dit « Je travaille comme cadre environ 50 heures par semaine. La systématisation du télétravail m'a permis de donner beaucoup plus de place à ma vie perso. Sans incidence pour mon entreprise, le bureau du lundi matin au vendredi soir est assassin pour le plaisir de travailler. » Et Florent nous écrit « Plus ou moins travailler bientôt, de toute façon, plus personne ne pourra travailler. Il faut travailler mieux pour la planète, donc pour l'homme, intelligemment, sobrement, fraternellement. » Dominique Méda, il y a un enjeu écologique aussi à
temps de travail. Là, c'est une question compliquée, je trouve, et c'est pour ça que moi, je suis certes toujours en faveur de la réduction du temps de travail, mais si on intègre la question écologique, je trouve que ça se complique. Pourquoi? Parce que si vraiment nos sociétés s'engagent dans la reconversion écologique, je crois qu'on va avoir besoin de plus de travail humain, tout simplement.
Pourquoi?
Moins d'adjuvants mécaniques émetteurs de gaz à effet de serre, moins d'adjuvants chimiques, donc plus de travail humain réellement, qu'il faudra donc être capable de répartir, c'est une chance, sur l'ensemble de la société. Donc moi, je ne crois pas du tout à ces prévisions catastrophistes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2013, il y avait eu un article de chercheurs d'Oxford qui disait que la moitié des emplois allaient disparaître sous le coup de l'automatisation. Depuis, cette étude a été vraiment beaucoup remise en cause. Moi, je n'y crois pas du tout. Et puis, de toute façon, c'est du déterminisme technologique. On est quand même, on peut décider encore un peu de ce qui va arriver à notre société. Donc voilà, l'un dans l'autre, reconversion écologique, oui, faut sans doute, alors, moins produire, moins consommer, donc peut-être moins travailler, mais en même temps, on va avoir besoin de plus de travail humain.
Alors, je vous donne quelques autres messages avant de vous rendre encore la parole. Annette qui nous écrit qu'elle est retraitée depuis le 2 mars 2020, donc juste avant le premier confinement. Tout le monde devrait avoir le temps de vivre pour être tranquille et développer des talents, se relier aux autres et à la nature. On a également un message de Laetitia qui nous raconte que son fils de 19 ans vient d'obtenir un BTS Hôtellerie Management. Il a débuté son premier job il y a 3 semaines en tant que cuisinier. Il fait 16 heures de travail par jour sans pause, à part 20 minutes pour manger à midi. Dur pour débuter dans la vie active. C'est une réalité aussi ça, Christophe Nguyen.
Oui, bien sûr. Il y a des secteurs, on le voit, où ils peinent à faire revenir leurs salariés. Et effectivement, c'est des secteurs qui ont pu bénéficier aussi d'aide. Alors, j'entends ici que on a financé l'oisiveté, on a encore une fois dégradé la valeur du travail, les gens ne savent plus travailler, ne veulent plus travailler. Je crois que ça questionne plutôt la question du bien travailler, et c'est ça ce que veulent faire les gens, c'est-à-dire dans des conditions qui sont normales, tenables, durables, efficaces, et qui apportent de la reconnaissance. Et les personnes qui finalement, notamment dans le secteur de l'hôtellerie, on l'entend, qui ne veulent plus revenir, et c'est leur choix, pourquoi, et qui veulent se reconvertir, parce qu'ils ont apprécié être avec leurs proches, être apprécié avoir du temps, des temps sociaux normaux. Et je crois que si ces secteurs ont de la peine à recruter, il faut développer et améliorer les conditions de travail.
On a Myriam qui nous écrit aussi, et si nous étions moins matérialistes, moins de besoins, moins d'envie, nous aurions moins besoin de travailler, peut-être pourrions-nous travailler plus longtemps. Qu'en pensez-vous, tiens, Dominique Carlac?
En fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de penser à quelque chose, je vais faire rétro-pédaler dans le passé. Du temps des Romains, il y avait deux temps. Il y avait le temps de l'otium, qui était le temps libre, le temps qu'on consacrait à la vie intellectuelle, à la vie de l'engagement dans la cité, à la vie du rôle social ou politique qu'on pouvait avoir. Et puis, il y avait le négotium, qui était ce temps des affaires, ce temps, je dirais, qu'on dirait aujourd'hui du business ou du travail. Je crois qu'aujourd'hui, les entreprises ont la clé pour réunir ces deux temps, otium, négotium, parce que toutes les démarches RSE, entre responsabilité sociétale des entreprises qui s'engagent pour faire autre chose que travailler sur le dogme friedmanien qui est intérêt direct pour l'actionnaire. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont un impact qui dépasse largement l'intérêt des actionnaires et ça se matérialise comment ? Ça se matérialise par l'engagement dans des projets et par la facilitation des salariés à s'engager dans les projets, y compris sur le temps de travail. Toutes les démarches RSE que vous voyez, toutes les engagements que vous voyez, c'est les entreprises qui les poussent.
Oui, parce qu'elles sont aussi contraintes par la loi et par la société.
Pas par la loi, c'est une démarche, c'est une question, de compétitivité, parce qu'il y a moins de présentéisme, il y a plus d'implication, plus de motivation, et c'est surtout une question d'attractivité. On a du mal à recruter, vous l'avez soulevé dans le secteur de la restauration. Pourquoi ? Parce qu'il faut rendre attractif les métiers, il faut rendre attractif le travail, et à partir du moment où vous mettez en selle l'engagement possible des salariés, à ce moment-là, tout va très bien.
Dominique Méda.
Moi, je préfère revenir, parce que j'y crois pas trop, mais je préférerais revenir sur la question des conditions de travail, ce que vous avez dit tous les deux sur la qualité de vie au travail.
Mais justement, les entreprises, elles sont prêtes à faire
Mais alors justement, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire un chiffre qui me paraît quand même hyper important. C'est un chiffre qui figure dans le livre de Thomas Coutreau, Libérer le travail, qui nous dit que la moitié des travailleurs associent travail et mal-être. C'est quand même énorme. Donc, il faut, et les enquêtes conditions de travail, elles nous montrent très bien ça. Par secteur, en plus, on voit très bien où sont les malaises. Donc, je pense que cette question des conditions de travail, elle est absolument centrale.
Dominique Carlac.
Oui, et il faut vraiment être à 360 degrés dans notre analyse. C'est-à-dire, les conditions de travail aujourd'hui dans la fonction publique, je demande à les comparer aux conditions de travail dans les entreprises privées. On a cité l'exemple tout à l'heure des internes. Il faut vraiment regarder partout où ça se passe en termes de conditions de travail.
Christophe Nguyen, il y a quand même des enjeux encore plus aujourd'hui avec la crise de croissance, de réussir à rattraper et de maintenir l'économie, l'état économique de notre pays, en l'occurrence. Oui. Est-ce que ces discours sur le bien-être, sur les salariés...
Ça fait tarte à la crème.
Un peu
Ça peut faire tarte à la crème si on se trompe, on va dire, de route et qu'on propose des séances de massage pour espérer que les gens... soit plus productif, vous voyez. Et je crois que effectivement c'est un levier de performance, la question de la santé et de bien-être des personnes, en allant, et on le voit, sur des éléments autour de l'organisation du travail, comment on ajuste aussi les ressources et on prend en compte les impacts humains des exigences qu'on peut faire, qu'on prend en compte pas que la charge de travail quantitative, on en parle, les heures, etc., mais aussi plus qualitative, c'est-à-dire ce qui est vécu, l'état des gens, est-ce qu'ils se sentent reconnus, est-ce qu'ils y trouvent du sens, c'est comment on accompagne mieux les changements, comment effectivement on a une approche durable aussi à ce niveau-là, et surtout le repositionnement du management pour amener du sens, du dialogue autour de ces aspects avec
donc,
les équipes.
Donc Dominique Méda, la solution c'est pas de travailler moins, c'est de travailler mieux surtout mieux organisé.
Et tous surtout. Et peut-être, je vais encore plus loin, pardonnez-moi, que ce que vous avez dit tous les deux, en reprenant le titre de notre bouquin, il faut démocratiser le travail, c'est-à-dire reconnaître vraiment que les salariés sont une partie constituante de l'entreprise et leur redonner beaucoup plus de pouvoir dans l'entreprise, à mon avis, c'est une des clés.
Allez, vous prenez combien de jours vraiment off cet été, Dominique Carlac? Zéro pensée pour le travail.
Trois semaines, mais je penserai au travail quand même, parce que ça ne m'empêche pas de dormir.
Mon problème, c'est que je travaille tout le temps.
Et Christophe Nguyen, vous savez déconnecter vous déconnectez. D'accord.
Complètement. Oui.
Allez, avant qu'on se quitte, le mini-débat, c'est toujours lié à notre sujet du jour. Une question, une réponse de chacun, puis après le résultat de notre mini-sondage qui, je précise, n'a vraiment aucune valeur scientifique sur Twitter. Aujourd'hui, alors, métro-vélo, boulot ou dodo, Dominique Carlac?
Vélo.
Dominique Méda.
Vélo.
Et Christophe Nguyen?
Monoroue.
Eh bien, sur Twitter, c'est Dodo qui gagne largement 79,7% des voix. Métro ou vélo arrive avec 16,5%. Boulot, 3,8%. Voilà, ça nous donne une petite réponse. Merci à tous les trois. Christophe Nguyen, donc je rappelle, psychologue du travail. Dominique Carlac, vice-président du MEDEF. Et Dominique Méda, je rappelle le titre donc de votre dernier livre. Manifeste travail, démocratiser, démarchandiser, dépolluer, c'est paru au Seuil. Je vous dis à demain avec cette question. A-t-on le droit de ne pas aimer le foot ?